Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec Olivia de Lamberterie, Duel, Elisabeth Philippe, Delops, Arnaud, Vivian, de Transfuge et de Regard, mais sans Nelly Caprielian, des arts incorruptibles, qui est positive au Covid et regrette de ne pas être avec nous ce soir pour parler des nouveaux romans de Michel Houellebecq, Karine Thuil, Julia Deck, Joshua Cohen et Tierno Monet-Nembo. Dans le courrier de la semaine, à propos du journal posthume dont on a longuement parlé ici, de Patricia Highsmith, Jean-Pierre Chambard nous écrit « Je suis resté bouche bée en écoutant Jean-Louis Hésine lire l'effarant avertissement de l'éditeur des carnets de Patricia Highsmith justifiant un acte de censure qui, chez Calman Levy, a entrepris d'infantiliser de la sorte un lecteur qu'il ne juge pas capable d'avoir assez d'esprit critique pour lire des horreurs, quelles qu'elles soient. Sans doute faut-il rappeler à cet éditeur que la France est le pays de la liberté d'expression. » Grégoire Adams d'Avignon n'a pas aimé entendre messieurs Vivian et Becbédé descendre le livre de François-Henri Désérable, Mon maître et mon vainqueur, est un roman magnifique, Arnaud, un éloge de l'amour comme on n'en avait pas lu depuis longtemps, porté par une langue virtuose. Et même sentiment de Paola C. de Nice, Mon maître et mon vainqueur, est l'un des plus brillants romans de l'automne. Manolis, papa Stéphanou, qui nous écoute depuis Munich en Allemagne, en podcast pendant son jogging, très important, souscrit aux éloges unanimes du masque pour Madame Hayat d'Ahmet Altan, paru chez Actes Sud. Et il nous signale du même Altan, « Je ne reverrai jamais le monde », qui contient, nous dit-il, cette phrase magnifique, « J'écris ces lignes depuis ma cellule, mais je ne suis pas en prison, je suis écrivain, je peux traverser vos murs sans mal ». Je vous rappelle que ce roman dont on a parlé et dit beaucoup de bien a été écrit en prison. À propos de la carte postale d'Anne Berest, beaucoup d'auditrices, d'auditeurs nous rappellent qu'un écrivain avant elle a brisé le tabou ultime pour entrer littérairement dans une chambre à gaz. C'est, nous écrivent notamment Constance, Michel Seston, Xavier Poquet et beaucoup d'autres, Vassily Grossman dans Vie et Destin. Enfin, pour lancer le débat, Pascal Gervase de Genève a lu « Anéantir » de Houellebecq, qu'il rebaptise « Extension du domaine de l'ennui ». C'est un cocktail indigeste, un tiers de politique fiction, un tiers de dystopie hyper-violente et un tiers d'une saga familiale marquée par le suicide et la maladie. « Anéantir » prend d'ores et déjà, nous dit Pascal Gervase, la tête du peloton dans la course au roman le plus déprimant de 2022. Voilà, eh bien, on va commencer avec « Anéantir », le nouveau roman de Michel Houellebecq chez Flammarion, qui compte 730 pages sous une très belle couverture reliée, ouvrage tiré à 300 000 exemplaires. Première phrase, certains lundis de la toute fin novembre ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Un couloir qui va être long et sombre jusqu'à la page finale où Houellebecq remercie une kyrielle de médecins, neurologues, oncologues, chirurgiens ORL, dentistes, mais il ne remercie pas Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui est sous le pseudonyme de Bruno Juge, le personnage emblématique de ce roman. Le vrai héros du livre, c'est son conseiller Paul Raison, fonctionnaire neurasthénique de la direction du budget, dont la femme Vegan est inspectrice à la direction du Trésor, le père, un ancien des services secrets, hospitalisé après un AVC, la sœur très catholique mariée à un notaire au chômage ancien du bloc identitaire, et le frère à une journaliste de gauche forcément repoussante. Le roman se déroule pendant la présidentielle de 2027, et c'est un très bref résumé, c'est 730 pages. Après un double quinquennat, le président sortant, sosie de Macron, que Houellebecq ne porte pas dans son cœur, pense à Bruno Juge pour lui succéder, puis à un homme de télé, clone de Cyril Hanouna, qui est Benjamin Sarfati. Dans ce roman, il y a aussi des attentats, des piratages informatiques, des vidéos de décapitation du ministre de l'économie, mais il est surtout question, vous l'avez compris, de mort et de la vieillesse dans les EHPAD, ces mouroirs, et puis aussi de l'euthanasie à laquelle, on le sait, Houellebecq est farouchement opposé. D'où ma question, est-ce que Anéantir vous a séduit ou anéanti ? Je me dois, avant que vous ne parliez les uns les autres, je dois vous préciser que Nelly Gabriellian, absente à cette tribune, nous a envoyé un bref texte que je vous lirai après pour qu'elle exprime son avis, qui n'est pas positif d'ailleurs, sur ce... Enfin, elle est positive au Covid, mais elle est négative au Houellebecq.
C'est bien la peine.
que je vous lirai dans quelques instants, mais qu'elle souhaitait que je dise, elle avait tout à fait raison, puisqu'elle ne peut pas être là. Olivia.
Moi, j'ai l'impression que Michel Houellebecq rend fou, de toute façon, et
pourquoi
que le statut... Si, le statut que la presse lui donne depuis quelques années comme une sorte de monument national, pour reprendre le titre d'un ouvrage dont on parlera après, rend fou les journalistes qui ont chacun leur propre grille de lecture et, j'ai l'impression, lui donne des intentions qu'il n'a pas forcément.
Pardon, mais c'est une folie qui est savamment entretenue aussi
oui,
par
tout ça. C'est un lancement qui a été.
Bien sûr, c'est un rôle.
Et par Houellebecq lui-même,
qu'il est
par
or
le roi de la stratégie,
de, rockstar de la littérature.
Y compris, on peut le rappeler, un mot que nous avons tous reçu voilà. Dans le livre, pas une interview, pas. Et puis, trois jours après, une grande interview dans Le Monde.
Oui.
Exactement.
Ça a plu à la profession.
Et ça a déplu à certains journalistes.
Bon, parlons du livre. Allez.
Qui espéraient avoir l'interview. Après, j'ai l'impression que les gens qui l'aimaient le plus sont ceux qui le détestent le plus aujourd'hui. Et je me disais que peut-être pour être très déçu, il fallait avoir énormément.
Tu pourrais nous dire ce que tu penses du livre, oui.
Ce qui n'a jamais été mon cas. Moi, je me suis jamais roulée par terre pour Houellebecq. Après, tu demandes, est-ce qu'on a été anéanti ou séduit ? Moi, pas du tout anéanti. Séduit me semble pas du tout le bon mot, parce que Houellebecq n'a jamais écrit des livres séduisants. Et quand je lis que tout d'un coup, certains journalistes ont l'air de découvrir qu'il est désenchanté, misogyne et rance, moi, je tombe de ma chaise. J'ai l'impression qu'on savait déjà qu'il était misogyne, désenchanté et rance, mais que ce livre-là est le moins misogyne et le moins désenchanté.
C'est très discutable. Hein.
Très discutable.
Très
discutable, mais moi, je suis d'accord.
De la misogynie, je trouve que, pour la première fois, les femmes sont bien traitées chez Houellebecq.
Oui, à condition qu'elles fassent la cuisine et des fellations.
Sauf la journaliste.
D'abord, ça peut être tout à fait agréable, Elisabeth Philippe. Et,
Olivia.
Jusqu'à présent.
Olivia.
Elles étaient.
Monsieur de Lambert-Thuré écoute aussi l'émission, hein.
Jusqu'à présent, elles étaient des prostituées. Là, elles sont devenues hauts fonctionnaires, directrices de la communication. Elles ont tout à fait changé
de
statut.
Et la femme du héros ne fait pas la cuisine par.
Elle s'y met. Elle essaie de lui faire des omelettes.
Enfin, il y a des raisons quand même.
Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Et elle est d'une telle liberté qu'elle a une religion étrange par ailleurs.
Oui,
alors,
c'est une sorcière.
Olivia.
Donc moi je trouve que pour la première fois, ça me plaît que les femmes fassent des fellations à leur mari et non plus à des chiens. Parce que je vous rappelle que le dernier livre, c'était quand même ça.
On est diffusé à une heure de grande écoute.
Sous cet angle.
Pendant les dîners.
Excuse-moi, mais j'avais été la seule à cette tribune à être violemment contre sérotonine, que j'avais trouvé vraiment rance et misogyne. Je trouve que ce n'est pas le cas.
Juste une question, Olivia, avant que tu continues. Tu ne t'es pas du tout ennuyée pendant ces 730 pages ?
Non, moi je ne me suis pas ennuyée. Je les ai lues d'une traite.
Ah ouais.
Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un roman qui se transformait tout le temps, qui commençait comme une sorte de roman sur des attaques terroristes bizarres. Est-ce que c'est des écolos, des fachos ? Que visiblement, l'histoire n'intéressait pas tellement Michel Houellebecq et elle part complètement en eau de boudin. Ça tombe bien parce que ça ne m'intéressait pas tellement. Après, il y a toute une partie politique. Alors, je lis partout que c'est un roman son plus politique et son plus mauvais. Moi, je trouve que la partie politique est une toute petite partie du livre et pour moi, c'est une farce. Honnêtement, j'ai trouvé...
C'est pas la meilleure.
très drôle, mais pas la meilleure.
Pas la meilleure.
D'ailleurs, ça l'intéresse pas tellement non plus.
Mais oui.
Et tout d'un coup, le livre devient une sorte de grand roman familial que j'ai trouvé formidable. C'est l'histoire d'une fratrie qui se réunit autour d'un père qui ne peut plus parler. J'ai trouvé que les relations entre le père et le fils, pour la première fois, étaient émouvantes. Cet homme et ce fils qui ne se sont jamais parlé et qui ne pourront jamais se parler puisque le père est devenu aphasique. Et moi, j'ai eu l'impression que Houellebecq était débordé par ses personnages et finalement qu'il écrivait un roman qu'il n'avait pas prévu d'écrire.
Personnage, d'ailleurs.
Et le personnage de Prudence qui est attaqué partout, moi, je le trouve vachement.
Je rappelle qu'on croise aussi dans ce roman Éric Zemmour, David.
Enfin, zéro. Non, alors là, on ne peut pas dire ça. Il est balayé en un paragraphe.
Philippe Lançon.
Ah, oui. Alors, les gens qui disent.
Michel Drucker.
Oui, bah, c'est ça.
Oui, Laurent Geoffrin aussi, qui a son problème de petite. L'émission C'est politique, l'émission C'est politique sur la cinquième, là, prend cher.
Mais moi, je trouve que c'est la première fois qu'il y a un roman de Michel Houellebecq que je trouve émouvant.
Elisabeth.
Alors, je suis d'accord avec Olivia sur le fait que Houellebecq rend fou. Moi, je sais pas si c'est des effets secondaires non répertoriés du Covid ou un excès de sucre pendant les fêtes qui fait que tout le monde quasiment est unanime sur ce livre, le loup, donc des éloges partout.
Ah non, il y a plein de gens qui l'aiment.
Très peu, très peu. Jusqu'à présent, très peu.
Enfin, le Canard enchaîné, Mediapart, Les Inrocks, il y en a un qui
est en face, Libé, Le Monde,
Allops, bien sûr, voilà. Non.
Mais en tout cas, le fait de même qu'il puisse y avoir des éloges, moi, ça me sidère. Ce livre, c'est une compilation, en fait, de tous les romans précédents de Houellebecq. Il y a un petit peu de soumission, puisque cette fois-ci, c'est pas soumission, c'était la campagne présidentielle de 2022. Là, on est en 2027. Un petit peu de La possibilité du Nil. Même au niveau stylistique, je veux dire, c'est vraiment, on a l'impression que c'est écrit par générateur automatique, tellement c'est des formules qu'on a déjà lues ailleurs. C'est vraiment, ça confine à l'autoparodie, donc c'est assez pénible. Tu l'as dit, ça se lit très bien parce que c'est une espèce d'autoroute comme ça, avec cette phrase monocorde, atone. C'est oui, on tourne les pages, mais au départ, on est un peu curieux. On se dit, mais il met tous ces éléments en place, une histoire d'espionnage, une histoire familiale, une histoire politique. Il y a cette histoire de sorcière, de pentagone étrange, de messages cryptés. Que va-t-il en faire? La réponse est rien. Rien. Si ce n'est que le livre bascule à la fin, et à la limite, la dernière partie est peut-être la meilleure, et on aurait pu tout à fait s'en satisfaire. Donc les 600 pages qui précèdent sont une véritable épreuve qui mène à cette agonie, qui en est une différente, mais qui en est une quand même. Donc en plus, il y a des dialogues très très fastidieux, il y a des récits de rêves qui sont extrêmement longs.
Il y a beaucoup de rêves. Hein.
Ralentir, plomber. Mais non, ils sont pénibles, c'est insupportable, on a envie de tourner les pages. Les dialogues sont très fastidieux, puis toutes ces intrigues qui finissent en noeud de boudin, enfin, c'est vraiment... C'est ni fait ni à faire. Et puis, sur cette histoire de livre qui serait moins rance, moins misogyne, en fait, il est beaucoup plus pernicieux, ce livre. Parce que certes, il n'y a pas de provocation frontale comme Houellebecq a pu en faire précédemment, avec des déclarations tonitruantes dont on se souvient, notamment sur l'islam. Mais c'est beaucoup plus pernicieux parce qu'en fait, il distille plein de petites phrases. Ça va être, à un moment, il va parler d'un géniteur de race noire, il va parler de ce village dans le Beaujolais, où tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup d'Arabes. Donc c'est sa version à lui du grand emplacement. C'est le petit remplacement dans le Beaujolais. Il parle aussi de tous ces dentistes quand même qui ont des non-juifs. Enfin, je sais pas, il y a quelques années, quand on répertoriait les non-juifs dans une émission de radio sur France Culture, ça faisait scandale. Donc là, c'est Houellebecq, il le met comme ça en passant au détour d'une phrase, c'est pas grave. Et puis les identitaires, les mecs du bloc identitaire, c'est des bons gros bœufs, ils sont gentils, puis en plus ils vont exfiltrer le pauvre papa de Paul Raison qui est à l'EHPAD. En plus, alors cette histoire d'exfiltration de l'EHPAD, c'est complètement surréaliste. Pourquoi? Pourquoi ils ont besoin de mener une opération secrète avec des anciens du bloc identitaire? Quelle est la raison?
Mais
c'est absurde.
C'est nul.
C'est nul.
Mais tu n'as jamais
vu la scène grotesque avec la nièce quand il se retrouve. Il appelle une escorte et il tombe sur sa nièce. Mais c'est évidemment, il y a encore question de fellation. Non, c'est... Je suis désolée, mais c'est pas possible. Et si on veut lire une très belle histoire d'agonie, ben je sais pas, on relit Mars de Fritz Zorn et on s'épargne Michel Houellebecq.
Arnaud.
D'abord, à la question, est-ce que ça m'a séduit ou anéanti? Les deux, en général, c'est que ça m'a séduit et ça m'a anéanti. C'est-à-dire que j'ai mis quand même 3 jours à m'en remettre après avoir fini. La fin, c'est-à-dire qu'on est, il y a quand même une idée, presque à la Emmanuel Carrère et ou à la Philippe Lançon, puisqu'il est
cité à la fin du livre,
longuement cité, puisque le héros lit le lambeau, puisqu'il est confronté à une situation relativement similaire. C'est comme un livre d'une, si vous voulez, pour moi c'est le chef-d'œuvre de Michel Houellebecq. On voit très bien comment il a décidé avec ce livre de passer dans un plateau supplémentaire à un moment. Pour ceux qui ont mon âge, ça parle énormément, et c'est là où on voit que c'est un immense écrivain. Il fait la description d'un vélo demi-course que le héros avait dans son adolescence. J'ai eu le même.
C'est pour ça que tu as aimé le livre.
C'est ça, mais
personnellement, je ne suis jamais monté sur un vélo.
Un écrivain, c'est quand même ça. Et on voit clairement, alors le vélo demi-course avait deux plateaux. On voit très clairement qu'il a passé le second plateau avec Anéantir par rapport au reste de son œuvre. Après Sérotonine, qui était quand même, on va dire, léger.
Nul.
Moi j'aimais bien, mais là quand même il y a une dimension supplémentaire qui est évidemment tout de suite l'objet est façonné pour durer lui-même, et on voit que le texte, parce que le texte a été façonné pour durer. Vous ne dites pas qu'il y a des illustrations dans ce livre. Il y a une dizaine d'illustrations, dont quatre.
C'est des dessins cabalistiques
à Houellebecq lui-même. Le premier utilisé, mais c'est passionnant d'un point de vue par exemple psychanalytique. Ce livre est passionnant. Il commence par un message illisible. Et on sait, évidemment, ce que ça veut dire en langage de, en termes de critique, un livre illisible. Eh ben, ça commence par un message illisible et ça se termine sur la menace de l'ablation de la langue. Donc, franchement, là, il y a tout un parcours et on est dans le couloir de la mort. Là où nous entraîne Houellebecq, il s'est beaucoup documenté, il a beaucoup lu, il a parlé avec des médecins. Là où il nous entraîne, la question qui hante le livre, c'est où finit la vie? Où commence la mort? Où finit la vie? On sait que c'est un thème. Effectivement, il a fait des tribunes, tu le rappelais, Jérôme, des tribunes
sur... Figaro contre l'euthanasie.
Contre l'euthanasie. Il a préfacé un livre sur l'affaire Vincent Lambert. Donc, il connaît particulièrement bien le sujet. Et là, il nous emmène là, avec, justement, le père qui a fait son AVC, mais qui continue à avoir une vie, même s'il ne peut plus parler, continue à avoir une vie avec cette femme qui est sa seconde femme, Madeleine, qui est un personnage extraordinaire. Parce que, dans les personnages de femmes, il y a des femmes mais magnifiques dans ce livre, dont cette Madeleine.
Je suis d'accord.
Il n'y a pas que la nièce qui fait des, encore que la nièce qui fait des fellations. Elle est magnifique aussi dans son genre. Il y a une volonté d'affirmer chez Houellebecq, qui est tout à fait nouveau, presque une forme d'humanisme. Ça parle de mort, évidemment. Et franchement, la dernière phrase vous anéantit. La dernière phrase du livre vous anéantit. Et en même temps, ça parle d'amour. Alors effectivement, un amour familial, plutôt du droit du sang que du droit du sol. On savait que c'était pas quelqu'un d'extrême gauche, Michel Houellebecq. Voilà, et ça fait déjà un moment qu'on le sait.
Mais y a aucune
après,
complexité.
Si vous voulez,
c'est totalement univoque. Donc bien sûr,
non,
peut,
moi je trouve pas. Je trouve qu'il y a un second degré dans ce livre, mais presque tout le temps.
Mais
d'ailleurs, la dernière phrase du livre, tu citais. Il y a deux dernières phrases. Il y a la dernière phrase du
avant
roman.
Avant les remerciements.
Superbe. Et la dernière phrase des remerciements montre bien ce second degré.
C'est la meilleure.
C'est la meilleure phrase. Il dit que tout d'un coup, il est en train d'écrire quelque chose de positif et que donc il est temps qu'il s'arrête.
Et encore une fois, les illustrations, vous allez rêver dessus. Mais parce que il y a un côté de Sherlock Holmes dans ce livre. Il y a un éloge de Sherlock Holmes, mais absolument magnifique. C'est un livre d'aventure comme on lisait dans l'enfance avec des images, sauf que c'est des images pour adultes là. Hein, ça quand même. Moi, j'arrive pas de penser à l'image de la guillotine. À un moment, il y a un schéma technique de la guillotine qui dit bien de quoi on parle, de quoi va parler le livre, c'est-à-dire.
Bon.
De la mort et cette phrase qui revient à la fin, qui, à mon avis, est très impressionnante dans le livre, c'est « Je ne veux pas qu'on me coupe la langue ».
Et donc, notre amie Nelly Capriélian, grand soutien, il faut dire, depuis toujours de...
elle doit détester, forcément. Elle a découvert...
Non, mais si tu parles avant que j'ai lu ce qu'elle nous a envoyé, alors là, bonjour la démocratie.
Donc, il peut changer de discours.
Nelly Capriélian nous a envoyé ce texte. « Cela me désole de le dire, mais Anéantir m'a profondément déçu. S'il ne s'agissait... pas d'un livre de Houellebecq, je l'aurais laissé tomber en cours de route. C'est tellement ennuyeux, insipide. Il n'y a tellement pas d'humour, on n'y reconnaît tellement pas ce qui a fait tout le style de Michel, que j'ai même cru à un moment qu'il s'agissait d'un canular, d'un livre écrit par Geoffroy Lejeune, le directeur de Valeurs Actuelles et grand ami de Houellebecq. Tous les personnages d'extrême droite sont sympathiques, les vannes sont plus hétérobeaufs que jamais. Mais après tout, on peut être très réac et bon écrivain, ajoute Nelly. C'est sur le plan littéraire que le livre est raté. Il faut attendre la page 600 pour retrouver le Welbeck qu'on aime quand il traite de métaphysique. Finalement, peut-être qu'avec Anéantir, il a trop pris au sérieux sa pose d'écrivain national politique. Et c'est d'autant plus raté que l'époque a changé et qu'il semble s'être plus que jamais rigidifié sur des gimmicks du passé. Il y a un moment où, quand on est une telle star, on finit par croire que la moindre de ses phrases est un saint sacrement. Et c'est là où on tombe et c'est triste. Voilà l'avis de Nelly Caprielian. Des Arocs sur Anéantir.
On aura au moins appris que l'époque avait changé.
Il paraît, je le rappelle, chez Flammarion. Allez, plus rapidement donc, La Décision, le nouveau roman chez Gallimard de Karine Thuil, à qui on doit notamment, vous savez, Les Choses Humaines, prix Interallié et Goncourt des lycéens 2019, qui a été adapté avant Noël par Yvan Attal au cinéma. L'héroïne de La Décision, eh bien, c'est Alma Revel, elle a 49 ans, elle est en mai 2016, donc après les attentats de 2015, juge d'instruction du pôle antiterroriste, et elle doit se prononcer sur le sort d'Abdel Jalil, un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique et qui jure être allé en Syrie, non pour Daesh, mais pour aider une population opprimée. Dilemme professionnel auquel s'ajoute un autre, plus intime, puisque marié depuis plus de 20 ans à un écrivain ancien prix Goncourt et mère de 3 enfants, celle qui se définit comme une juge rouge, entretient une liaison avec l'avocat, manque de peau, Emmanuel Forest, qui représente le mis en examen. Conflit d'intérêts donc, mais aussi une décision qui est celle du titre, faut-il libérer ou non Abdel Jalil, au nom de l'intime conviction, et celle ou non de divorcer dans sa vie personnelle, Elisabeth ?
Alors moi, j'ai lu tout ce livre avec le générique de la série Law and Order, le New York Police d'État ou New York Police Judiciaire. Parce que j'avais vraiment l'impression, c'est « Je m'appelle Alma Revel, je suis juge antiterroriste ». Enfin, je le disais vraiment comme ça, parce qu'on voit bien Karine Thuil se documente énormément, est très attentive à l'actualité. Donc on voit ce côté très appliqué, qu'elle a fait beaucoup de recherches sur le métier de juge antiterroriste, sur la réalité des condamnés justement pour terrorisme, comme le personnage d'Abdel Jalil. D'ailleurs, elle est très appliquée. Il y a beaucoup de citations. Il y en a, je crois, pas moins de 4 ou 6 en exergue. Gide, Shakespeare, Kundera, puis il y a Baldwin à l'intérieur. Et en fait, au bout d'un moment, moi, j'avais l'impression de lire une synthèse de tous les articles que j'ai pu lire dans les journaux sur les attentats, sur le terrorisme. Alors, c'est des lieux communs tragiques, mais ce sont des lieux communs. Et on demande à la littérature quand même d'en faire quelque chose d'autre. Donc, de ressasser les phrases qu'on a entendues des centaines de fois, malheureusement, proférées par les terroristes, notamment « J'aime la mort comme vous aimez la vie », etc. Tout ça, ça vient émailler le récit. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très, voire trop didactique. Et en plus, le scénario, oui, je parle de scénario, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui relève de la série. Il est, c'est pas des gros sabots, c'est des sabots taille 48. Enfin, il y a des choses, mais c'est pas. Les personnages ont des biographies ultra chargées, mais enfin, ils ont tous ou des parents qui ont fait de la prison, ou alors des. Enfin,
c'est d'extrême gauche.
D'extrême gauche, un fils caché qui est évidemment malade. Enfin, c'est absolument aberrant.
Parce que la juge est fille d'un ancien de la gauche prolétarienne. Donc.
Non, mais ils ont tous des biographies comme ça chargées, comme. Enfin, c'est complètement fou. Et le style lui-même est chargé avec des formules très très lourdes qu'on dirait sorties de manuels de développement personnel. J'en ai relevé 2. La dynamique interne qui impulse l'écriture, ou alors l'interrupteur de l'énergie émotionnelle. Alors ça, je m'en suis pas remise. Et quand ce sont des mots d'amour, c'est « tu es mon évidence », par exemple. Ça, c'est l'avocat qui dit ça à la juge. Ben, moi, je fuis tout de suite. Et en plus, il y a des incohérences aussi dans le livre. À un moment, il est question dans un interrogatoire, puisque le récit est ponctué d'extraits d'interrogatoire et d'audition du fameux Abdel Jalil. Et à un moment, elle lui dit, mais c'est vraiment, c'est dans la même page, c'est à 2 phrases d'écart. Donc c'est sa grand-mère maternelle qui a à un moment prévenu les services sociaux. Et 2 lignes plus loin, on nous dit que les grands-parents maternels ont été tués en Algérie. Donc là, je ne comprends pas. Donc toute la rigueur de Karine Thuil, qui était à la limite peut-être le seul point positif, ben, s'écroule complètement. Non, j'ai pas du tout aimé ce livre.
C'est ce qui me semble. Arnaud.
Ben, si vous voulez, moi, à chaque fois que je lis trop souvent un livre de Karine Thuil, j'ai toujours la même sensation. J'ai pas lu le dernier immédiatement adapté par Yvan Attal. On a l'impression que tout ça se fait quasiment en même moment, tellement entre la sortie du livre et du film, il y a eu très peu d'espace, un an à peu près. Donc j'ai pas lu le livre, j'ai pas vu le film non plus. Mais en tout cas, j'ai toujours j'en ai lu d'autres auparavant, et à chaque fois j'ai le même sentiment, c'est d'être sur un canot, un petit peu comme celui de Tintin sur la couverture de L'Île Noire, quoi, et de quitter un continent que j'ai beaucoup aimé, et qui s'appelait la littérature, et d'aller vers une île noire, qu'on va dire, de la paralittérature, c'est-à-dire du scénario, en fait. Hein. En le lisant, si vous voulez, j'avais l'impression d'être Dominique Besnéard en train de faire la direction de casting, en disant, mais et c'est pour l'avocat, là, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à Abel Quentin, parce qu'il a travaillé
avec une
avocate.
La juge, ça pourrait être Karine Viard, je trouve.
Oui, oui. La juge pourrait être Karine Viard. Pour l'avocat, on pourrait prendre Vincent Lindon à contre-emploi. Ça pourrait être original, hein, parce que depuis Dreyfus, on l'a pas vu depuis Dreyfus, on l'a pas vu à contre-emploi, c'est dommage. Donc il y a cette avocate qui est vraiment inspirée. C'est une avocate qui défend les terroristes, qui est visiblement inspirée de Isabelle Coutant-Père et le jeune avocat Abel Quentin, donc véritable avocat, a travaillé avec Isabelle Coutant-Père. On voit qu'elle a eu des modèles, quoi. Mais c'est ça. Après, il y a un problème, si vous voulez, outre le fait que tout ça est quand même un ramassis de clichés quand même absolu, c'est que il y a politiquement, moi, il y a quelque chose qui m'est extrêmement désagréable. C'est que on nous fait croire que finalement un juge antiterroriste, parce qu'il a des problèmes, parce que elle couche avec l'avocat, prend soudainement une décision, parce que son père était d'extrême gauche, qu'il a lu Michel Foucault, alors qu'en fait tout ça est faux. C'est essayer de nous faire croire que les individus dans un système qu'on appelle le système judiciaire, voire le système pénitentiaire, ont un rôle avec leurs affects, ils arrivent avec leurs histoires, avec leurs affects. Mais non, on sait bien que la justice aujourd'hui, la justice moderne, c'est juste un système qui fonctionne comme un système. Et donc,
Ça n'empêche pas les affects, Arnaud.
Non, c'est cette volonté d'humaniser les fonctions qui sont d'ailleurs, comme si un avocat n'arrivait pas à résister. Mais
comme si un critique avait des sentiments, jamais.
Mais j'espère bien que la critique n'a pas de sentiments. Mais j'espère bien qu'elle juge un texte sans avoir des affects en disant « Oh, j'ai mal dormi,
je déteste relire le livre d'Arnaud Vivian. Olivia.
Mais ce que tu dis est faux, parce que la décision qu'elle prend,
qu'on ne dira évidemment pas,
elle le fait sans prendre en compte ses affects. Elle en a des affects, mais qui n'en a pas, et pourquoi une juge d'instruction n'en aurait pas? Karine Thuil n'est pas une styliste, elle ne l'a jamais été. Mais en revanche, je trouve qu'elle a une manière de fictionnaliser des faits de société qui sont intéressants. Et je trouve que le portrait de cette femme juge d'instruction est intéressant. Pour moi, c'était assez nébuleux comme fonction, je dois le confesser. Sans doute, peut-être j'ai lu moins d'articles que toi. Et je trouve que...
Tu étais moins condamnée que d'autres. C'est plutôt ça.
Je trouve que la manière dont elle dépeint cette fonction est tout à fait fascinante. Cette femme qui, alors qu'elle a 6 ou 7 dossiers, c'est inhumain ce qu'on leur demande, ces gens. Et la manière qu'elle a de devoir décider si un jeune garçon qui est parti en Syrie et qui en est revenu en disant qu'en fait il était innocent et qu'il voulait vivre juste avec sa femme, fonder une famille et vivre sous la loi islamique, est-ce que ce jeune homme dit vrai ? Après tout, il est arrivé que des jeunes gens soient partis pour des raisons innocentes, ou est-ce qu'il est un manipulateur ? Et moi, je trouve que les interrogatoires, ils sont intéressants. Parce que justement, la juge, elle n'est pas naïve, elle n'est pas idéaliste, elle ne le traite pas comme un monstre, elle le traite comme son semblable, et que leurs échanges, moi, je trouve, sont intéressants. Je trouve que c'est un livre sur un sujet intéressant et qu'elle en fait quelque chose d'intéressant. Et je ne vois pas comment ces gens, tu parlais des affects, qui mènent cette vie impossible, peuvent en plus avoir des enfants, des maris. Alors là, ça me semble complètement fou. Et je trouve que ce qu'elle raconte est intéressant. Et puis, il y a toujours un truc qui m'intéresse chez Karine Thuil. C'est la manière dont, tout d'un coup, une pulsion sexuelle met leur vie complètement en vrille. Mais c'est vrai. Dans tous ces livres, il y a ce petit moment où tout d'un coup, ces gens qui sont si tenus, ils deviennent...
C'est dingue.
Fous. Moi, je trouve que c'est un livre très intéressant.
La décision de Karine Thuil, c'est chez Gallimard. Les Netanyahou, sous-titré, ou le récit d'un épisode somme toute mineur, voire carrément négligeable, dans l'histoire d'une famille très célèbre. C'est un roman de l'écrivain américain le plus grand vivant selon le Washington Post, Joshua Cohen, traduit par Stéphane Van Der Egg, chez Grasset. où l'on voit le petit Benjamin ou Benjamin Netanyahou, dit Bibi, disons, arriver en 1960 avec son père, Benzion Netanyahou, spécialiste de l'Inquisition, chez Ruben Blum, un professeur d'université dans l'État de New York. Parce qu'il est juif, Blum doit évaluer la candidature de Benzion Netanyahou, qui vient d'Israël à un poste d'enseignant, donc dans cette faculté. Les Blum vont être très accueillants d'ailleurs, et les Netanyahou très très voraces. C'est une parodie de Campus Novel, qui ne donne pas d'ailleurs un portrait très flatteur du père de Bibi. Arnaud.
C'est un admirable exercice d'admiration à des grands écrivains américains comme Saul Bellow, comme Philip Roth.
Qui sont ses références, absolument.
Oui, voire comme Nabokov aussi. Si vous aimez ces trois écrivains, vous allez forcément aimer ce livre, parce que là, on a affaire pour le coup à un grand styliste, un grand intellectuel. C'est un écrivain intellectuel qui traite d'un sujet d'ailleurs compliqué, celui que Jean-Paul Sartre aurait appelé...
L'histoire est en vrai. Hein.
Oui,
cet épisode est vrai.
Oui, hein. Je suis allé vérifier... Tout est vrai concernant le père Netanyahou. Tout est vrai sur sa thèse, puisqu'il fait une thèse sur le statut des Juifs sous l'Inquisition en Espagne. Donc tout ça est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, il s'est effectivement présenté à cette université. D'ailleurs, il y a un épilogue qui raconte le making-of, si on peut dire, du roman éblouissant, qui pose une question, mais qui est tout simplement dans l'exergue du roman à propos de la question juive. C'est si tu n'élimines pas la diaspora, la diaspora t'éliminera. Et c'est exactement ça le récit. Oui, c'est très intelligent, mais vraiment brillantissime, drôle. Il y a une histoire de nez cassé quand même qui vaut son pesant. Et la dernière, parce que vous lisez ça, vous êtes vraiment, moi j'étais extrêmement admiratif, parfois vraiment c'est brillantissime dans la phrase, dans les métaphores et tout ça, c'est drôle. Et en même temps, j'avais comme une petite réticence, et la dernière page qu'on ne racontera pas, la toute dernière page, exactement ce que je pense du livre, mais vraiment exactement ce que je pense du livre, c'est dit par un des personnages du livre. C'est magnifique, parce que c'est un livre qui à la fois est construit comme il est, admirablement, et qui en même temps comporte sa propre critique à la fin. Et là, vous lui dites, quel tour de force, quoi.
Petite parenthèse d'ailleurs, il faut admirer quand même les critiques qui ont lu ce soir près de 2000 pages. Si on ajoute les 730 pages de Houellebecq à tous les autres livres, ça vous fait quand même un bon... Vous avez passé un bon Noël et des...
Personne ne m'a vu à Noël.
Un bon réveillant. Elisabeth.
Oui, c'est un livre absolument fou, génial, brillant, qui fait mentir l'adage selon lequel les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Là, c'est une longue histoire drôle, une longue histoire juive qui, avec une chute hilarante, ce qui vient juste avant le bonus et l'explication un peu auto-fictionnelle. C'est vraiment très, très drôle. Et tu le disais, on entend évidemment des hommages à Saul Bellow, à Bernard Malamud, à Philip Roth. Et son personnage d'universitaire qui accueille donc le père de Netanyahou, ce fameux Ruben Blum, qui lui a été d'ailleurs inspiré par le critique américain Harold Bloom.
Ça s'écrit pas de la même manière.
Non, pas de la même manière.
Deux O et là, Blum, exactement. C'est avec un U.
C'est un spécialiste de l'histoire de la taxation et donc de la dette.
Ouais, c'est drôle.
Et finalement, et Joshua Cohen, que j'ai interviewé, c'était une façon pour lui aussi de glisser cette histoire de dette et dommage de ce qu'il paye, de ce qu'il doit à ses prédécesseurs. Et je trouve ça montre bien l'esprit de Joshua Cohen, qui est par ailleurs quelqu'un d'absolument brillant. Et ce qui est formidable dans ce livre, c'est que justement ce personnage de Ruben Blum ne veut pas être réduit à sa judéité, et il s'est fait fort de devenir spécialiste de la loi fiscale et pas de l'histoire juive. Et finalement, tout ce roman, ça va être une histoire juive, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches, et ça va être à la fois l'histoire de qu'est-ce que c'est qu'être juif en Amérique. Donc il raconte, son personnage d'ailleurs est confronté à des scènes comme avec ce garagiste qui lui tapote la tête pour savoir et qui lui demande quand est-ce que vos cornes vont se mettre à pousser. Donc il est confronté à un antisémitisme même pas latent, très explicite. Et c'est aussi l'histoire du sionisme, et notamment du sionisme révisionniste, dont le père de Benjamin Netanyahou était un des fondateurs, en tout cas un des, et qui l'a colporté d'ailleurs aux États-Unis. Donc il y a toutes ces couches, et en même temps, là on pourrait dire c'est très intellectuel, c'est du jus de crâne. Il y a des gags absolument géniaux. Tu parlais de l'histoire du nez cassé, mais il y a aussi cette visite des beaux-parents du professeur, avec toute une scène qui se passe dans la chambre, avec les bruits de toilette en arrière-fond. C'est absolument génial. Donc ce livre
on sait si Benjamin Netanyahou a lu le livre ou pas.
Apparemment, il n'a fait aucun commentaire puisqu'il est sorti en Israël, mais il a peut-être eu l'intelligence, ou ses conseillers ont eu l'intelligence de ne pas émettre de commentaires.
Oui, ou de le lire pour lui, Olivia.
Moi, je suis un tout petit peu moins emballée que vous parce que je trouve qu'il y a deux livres en un. Parce que Bibi, comme tu disais,
c'est une bonne chose,
il arrive page 200.
Oui.
Donc,
Ah bah oui. Si on fait des comptes chez Houellebecq, ce qui arrive page 500.
Il y a d'abord le tableau d'une famille juive dysfonctionnelle. Et ça, je dois dire que c'est très, très drôle. Avec la maison, en fait, familiale qui sert comme de théâtre. Et ce théâtre est envahi d'abord par la belle famille, donc effectivement extraordinaire. Mais les parents de Bloom, la scène est aussi absolument géniale. Et puis après, l'arrivée de toute la famille. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé que la deuxième partie du livre était quand même très complexe. Moi, j'ai pas tout compris. Bah oui, vous me regardez comme si j'étais une demeurée. Oui, bah oui, je suis une demeurée.
Mais non.
Non, c'est quand même. Il y a beaucoup de références. Et moi, il y a beaucoup de références que je n'ai pas toujours saisies. Il y a beaucoup de références même très américaines que moi, je n'ai pas toujours. Donc j'ai trouvé ça très drôle, très brillant, un poil complexe quand même.
C'est donc signé Joshua Cohen, ça s'appelle « Les Netanyahou », je vous passe le sous-titre, hein. Et ça paraît chez Grasset, Monument National, le cinquième roman « Chez minuit » de Julia Deck. Elle nous conduit là dans un château situé dans les Yvelines et habité par Serge Langlois, le célèbre. Serge Langlois, un vieux comédien français, un monument national donc, qui est logé donc dans un petit Trianon. Il vit là avec sa troisième épouse, de 30 ans sa cadette, Adrienne, devenue Ambre, une ex-Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça vous pose quand même une femme, ça. Ajoutez des jumeaux, une fille de 7 ans adoptée en Asie centrale, qui est la narratrice, une intendante, une nurse, un chauffeur, et un couple formé d'une cuisinière et d'un jardinier. Mais dans ce roman, comme dirait Olivia, il y a deux romans en un. Il y a aussi du côté du Blanc-Ménil, une mère célibataire qui travaille au Super U, où Abdoul, un client aux allures de prince abyssinien, fait ses courses, lequel, alors je vous dis pas comment, hein, va devenir le coach sportif de la femme du Monument National. Je pense que vous m'avez suivi, hein, tous. Sinon, en podcast, on peut réécouter, hein, mes résumés. Ça commence comme un vaudeville, ça se termine en polar, Olivia.
Ah bah c'est un décalque de la vie de Johnny Hallyday.
Pas sûr.
Il y a un petit indice.
Bah quand même, oui. Il y a des indices. Ouais.
Oui, il y a un petit indice qui est que lorsqu'il doit fêter son anniversaire à l'Élysée, on nous donne la date de l'anniversaire. Or, c'est le 15 juin, c'est la date de l'anniversaire de Johnny Hallyday, c'est la mienne.
J'ai pas pensé à ça.
Eh oui. Bah bien sûr. Johnny.
Du même signe que Johnny.
Ouais, et d'ailleurs, un jour, je l'ai interviewé et il avait même calculé notre ascendant. J'ai le même ascendant également que Johnny Hallyday.
Ah, mais ça explique pas mal.
Ça vous pose pourquoi je n'ai pas compris le livre précédent.
Et voilà. Okay.
Merci. Bah, bien sûr, c'est
mais elle de Johnny Hallyday. Elle n'a pas été Miss France.
Non, mais elle est beaucoup sur Instagram. Elle a adopté des petites filles.
Bien sûr. Puis il y a la maison à Saint-Barth.
Il y a la maison à Saint-Barth. Il y a l'espèce
Il y a quand même pas mal de choses. Sauf qu'il n'est pas. Alors il n'est pas enterré à la Madeleine. Enfin, il y a pas la cérémonie.
Finalement, je suis un peu finote puisque je n'ai repéré pas toi.
Voilà, mais est-ce que tu as aimé ?
Alors, je trouve que toute cette partie est très réussie, d'autant que l'écriture assez minuit, comme ça, très très précise et assez blanche, je trouve colle très bien avec le sujet, parce que ce sont des gens qui n'ont aucune chair. Elle, la femme, elle ne fait que maigrir. Ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas de sentiments.
Assez juste.
Et ils sont dans une parfaite confusion entre la fiction et la réalité. Et je trouve qu'elle peint ça de manière tout à fait admirable. La manière dont l'autre histoire
la seconde histoire qui est un peu plus...
Je trouve est plus lourde, hein. Discutable. Tout tombe parfaitement à la fin. Elle fait un tour de vis, à mon avis, qu'elle n'aurait pas
en
dû
fait,
faire.
C'est la suite de son précédent livre, Propriété privée. Donc tout ce qu'on apprend à la fin, ça reprend des éléments du livre précédent. On n'a pas besoin d'avoir lu Propriété privée pour le comprendre, mais on voit qu'elle a voulu clore quelque chose avec ses personnages.
Je trouve qu'elle est très maligne. La limite du livre, qui était un peu celle du précédent, c'est qu'on s'en fiche un peu de ces gens. C'est une très belle mécanique, mais je trouve qu'il manque quelque chose pour que ce soit vraiment très très réussi. Après, elle est très brillante. Il y a une sorte de faux Dominique Besnéard.
Encore ?
Oui, ouais. Dominique Bernard. Dominique Bernard, qui est très très drôle. Tu l'as pas vu, Dominique Bernard, non plus. Ouais.
On n'a pas compris non plus.
Non, oui. Non, là, il est très clairement... Très...
Arnaud.
Il y a une visite des Macron qui est très réussie, quand même. Hein. Et j'ai lu une interview de cette autrice et on lui posait la question de savoir pourquoi elle avait mis les Macron. Elle disait pourquoi se gêner ? Et je trouve que c'est exactement ça, le livre.
Pourquoi s'emmerder, hein.
Pourquoi se gêner, hein. Et donc, il y a un côté Madame sans gêne, en fait, dans ce livre.
Oui, c'est
qui est très réussi, je trouve. Et on est un peu comme dans ce jeu là, je sais pas comment ça s'appelle, où on joue quand même en général quand on est un peu bourré, en tout cas entre adultes, où on se colle un sticker sur la tête, où on doit deviner.
C'est très bourré même.
Qui on est. Et là en fait, on est en fait pendant toute la lecture du roman, justement, on se dit est-ce que c'est Johnny ? Il y a un côté Belmondo aussi, on pourrait.
Oui, bah voilà. j'ai pensé à Belmondo.
Mais oui, il y a aussi un petit côté, parce qu'il y a les chihuahuas, etc. Enfin, il y a
des bichons.
C'est des bichons, pas des chihuahuas.
Oui, pardon.
Ah oui, attention Arnaud.
Non mais là. Je suis désolé, je connais que les grands chiens, les petits, j'ai eu du mal. Donc il y a ce truc là qui est drôle. C'est vrai que la fin, après, dès qu'il est mort, l'histoire de l'héritage.
Mais non, mais moi, personne n'a dit qu'il était mort.
Enfin, mais.
D'ailleurs, Johnny vit toujours.
Oui, Johnny.
Les bichons, Johnny, il est là. Les bichons,
grâce à
ça,
Bertrand Lavier,
hein.
Qui a mis sa Harley en suspens.
Elisabeth.
Oui, non, ce qui est séduisant dans ce livre, c'est effectivement ce côté potin, people, voici, gala, avec l'écriture de Minuit et des allusions à Marguerite Duras.
Oui, drôle. Oui, c'est ça, c'est à que Beckett.
Donc ça, c'est assez drôle et c'est une satire sociale. Elle est très douée, Julia Deck, pour la satire sociale qui se termine un peu comme une partie de Cluedo ou un livre d'Agatha Christie. Effectivement, tous ces personnages, elle les campe très très bien, même s'ils n'ont pas de chair. C'est des amas de clichés avec lesquels elle joue, elle s'amuse, notamment le personnage d'Ambre, effectivement, qui est peut-être le plus amusant et le plus triste aussi, le plus sinistre. Donc avec son petit bichon et qui veut de la joie tout le temps, elle veut de la joie, de la joie, de la joie. Et tout le monde en prend pour son grade. Et en fait, c'est peut-être la limite du livre aussi, c'est ce jeu de massacre où on tire à vue sans discernement. Oui. Et je trouve qu'il y a certains clichés qui sont plus difficiles à manipuler que d'autres. Et ça marche un peu moins bien. Je trouve par exemple le personnage d'Abdoul, c'est parfois un peu limite. Voilà, il y a des choses comme ça un peu plus gênantes. Mais ce qui est dit sur cette famille, donc cette famille de Serge Langlois avec Ambre, avec les enfants adoptés, qui cristallise toutes les passions rentrées en fait de la France, ça c'est très très juste. Et c'est peut-être ce qu'elle a voulu montrer aussi en faisant intervenir les Macron. Il est aussi question des gilets jaunes. Il y a un peu beaucoup de choses. C'est peut-être la limite du livre, mais il y a plein de formules assez réjouissantes et c'est quand même assez amusant.
Oh, oui. Monument national, c'est signé. Et Julia Deck et chez Minuit, rapidement, malheureusement, Saharienne Indigo au seuil, le nouveau roman du Guinéen Tierno Monenembo, qui avait reçu en 2008 le prix Renaudot pour Le Roi de Kael, un roman qui s'ouvre à Paris, rue Mouffetard, où l'excentrique Madame Corr, qui est habillée très hippie, prétendument diseuse de bonne aventure, aborde Véronique Bangoura, une auxiliaire de vie guinéenne qui pousse un tétraplégie dans son fauteuil roulant, laquelle Véronique raconte à Madame Corr son histoire qui remonte, et là je ne vais pas entrer dans le détail, manque de temps, jusqu'à l'enfer des geôles de Sékou Touré, roman en épigraphe duquel Tierno Monenembo a placé cette phrase de Toni Morrison dans Beloved, l'avenir reposait sur la possibilité de tenir le passé en respect. Faut-il lire Saharienne Indigo, Arnaud ?
Écoutez, c'est assez foutraque, mais c'est porté par une énergie et surtout, j'ai envie de dire, un propos que je trouve assez admirable. C'est d'abord un livre, un roman. C'est un véritable roman, là, bourré d'aventures, qui se passe donc à la fois en Guinée et à la fois à Paris. C'est un beau livre, à la fois sur Paris et sur Conakry. On voit très très bien les deux villes dans une espèce de parallélisme. Et c'est ça qui est beau, justement, c'est cette idée de...
Avec une description des centres de torture, enfin des camps d'internement de ces couturiers.
Oui, mais aussi des boîtes de nuit.
Des boîtes de nuit.
Oxygène.
C'est déjà plus fun pour le début de l'année. Non mais par exemple il y a un éloge et ça j'étais tellement heureux de lire ça, il y a un éloge de ce bien oublié, je trouve, Gianni Esposito, l'immense acteur et chanteur, et en fait cet éloge dit tout, c'est que ce livre est un éloge de la mixité culturelle, voire ce que certains appellent la créolisation, et c'est ça dans ce brassage entre cette femme française qui a vécu en Guinée, qui a eu un enfant qu'elle a perdu parce que la révolution lui a fait perdre, et puis cette femme africaine de guinéenne qui s'est marié avec un personnage là de français absolument ex-68art qui lui fait découvrir Gianni Esposito. Il y a quelque chose comme ça de très flamboyant. Alors c'est un peu foutraque, tout ça part un peu dans tous les sens, mais encore une fois il y a de l'énergie et moi j'en ai plus.
Il faut savoir que Bonenembo, qui a longtemps vécu en France, est retourné dans son pays où il vit aujourd'hui et fait souvent d'ailleurs des tribunes politiques assez engagées. Elisabeth.
Oui, je partage plutôt l'avis d'Arnaud. C'est vrai qu'au départ, on progresse dans le livre, c'est assez touffu, on a l'impression de progresser comme dans une ville de nuit sans trop avoir de repères. En plus, il y a tout un jeu de masques, c'est-à-dire que les deux personnages, aussi bien la narratrice que cette fameuse Madame Corr, ont plusieurs noms, plusieurs identités.
On comprend cachent pas, beaucoup de secrets.
Elles cachent beaucoup de secrets, donc on ne comprend pas tout de suite. Donc ça se met en place progressivement et au fur et à mesure qu'on recompose leurs identités un peu compliquées, se recompose aussi l'histoire de la Guinée, notamment sous Sékou Touré, et des relations entre la Guinée et la France. Et c'est vrai qu'il y a toute cette mise en lumière de la répression sous Sékou Touré, et donc avec la présence de ces camps. Je crois qu'il y a 50 000 morts qui sont morts, de personnes qui ont été tuées entre 58 et 84 sous Sékou Touré. Donc il y a quelque chose de très violent, bien sûr, mais c'est aussi très lyrique, très dense. Il y a ces scènes de boîte de nuit qui s'appellent les maquis à Conakry, qui sont très belles. C'est sensuel aussi. Il y a énormément de personnages autour, qui sont beaux, beaucoup de personnages de femmes d'ailleurs, les hommes n'ont pas forcément le beau rôle dans ce livre, pas du tout même. Après, je trouve que le procédé narratif qui consiste à ce que là justement Véronique ou Atou, ça dépend, raconte son histoire à Madame Corr, c'est peut-être un peu artificiel par moment.
C'est le côté binaire un peu.
Oui.
C'est, on passe de la Guinée à Paris, de Paris à la Guinée, il y a un rythme binaire comme ça qui est un peu fatigant.
Et en même temps, oui, mais qui ne fonctionne pas tellement parce
maladroit.
Que l'histoire de Madame Corr est quand même beaucoup moins forte, ou en tout cas moins développée que celle... Elle est très forte, elle est très dure, mais elle est beaucoup moins développée que celle de la narratrice.
Olivia.
Parce que la narratrice est tellement séduisante. Moi, j'ai adoré ce livre. Et si vous n'aimez pas Anéantir, lisez Ça n'a rien à Digo. Ah, mais vraiment, je te remercie.
Ça n'a rien à voir, hein. Les deux n'ont rien à voir.
Oh, franchement. Justement, c'est pour ça. C'est pour tous les déçus de Houellebecq.
Le meilleur bandeau pour le livre.
Mais c'est vrai.
Pour tous les déçus de Houellebecq.
Mais c'est des trucs que Johnny pourrait dire. Hein. Ça, c'est
vraiment... Je te remercie.
Non, je t'en suis vraiment reconnaissante parce que je ne sais pas si j'aurais
mais
lu
ce prie.
Livre sans le masque. Et
je crois que c'est bon que... t'entends à quelque chose.
Ouais, parfois.
Parfois tu m'en
fais bien,
mais là.
j'ai trouvé que c'était pas du tout foutraque, que c'était extrêmement tenu, parce qu'il y a un nombre d'histoires dans ce livre, mais vraiment prodigieux, de personnages. Effectivement, toutes les femmes sont extraordinaires. L'héroïne, mais elle est absolument géniale. On peut dire, parce que on le sait très vite, page 15, c'est une adolescente qui saute par le balcon de sa maison à Conakry parce qu'elle vient de tuer son père. Et est adoptée.
Oh là là, tu vas en dire trop.
Oh ben non. Elle est adoptée par juste une femme qui a été filmère et donc qui a été rejetée par toute sa famille et sa nièce.
Oh, ça va.
Et on voit bien
ça
d'ailleurs
va.
Que
ça va.
Être
ça va.
Filmère.
Non, mais j'ai peur.
Mais on surveille avec Dieu.
Non. Mais après, ce que je trouve beau, c'est que justement, j'ai trouvé que les rapports entre les deux femmes n'étaient pas jamais factices. Qu'il y en a une qui est à la recherche de ses ascendants, de sa famille, et l'autre de son fils, et que finalement ça marchait bien, et que la description du 5e arrondissement n'est jamais...
La rue Mouffetard, oui.
Entre la place Monge, la place
c'est
Montaigne.
Beau, là. C'est, sur Paris, c'est vraiment...
Vraiment,
beau,
c'est jamais pittoresque.
Particulièrement sur la contrescarpe, ouais.
Ces cafés qui ressemblent encore à des cafés, ces commerces qui sont pas que des boutiques de fringues, ces restaurants vietnamiens... Non, mais c'est vachement bien fait. Non, j'ai adoré ce livre.
Eh bien, je crois que nous l'avions compris, voilà. Et c'est Saharienne Indigo, c'est au seuil, et c'est signé Tierno Monenembo. Il y a encore près de 500, 600 romans, encore c'est fou, hein. C'est comme la rentrée de septembre, au mois de janvier, et donc il n'y a pas Houellebecq. Donc vous allez maintenant nous conseiller un autre livre pour cette rentrée littéraire. On va commencer avec Olivia.
C'est un roman qui s'appelle « N'avance que désarmé ». C'est un vers de Oderlin, de Dorothée Werner chez Fayard. Et c'est presque l'anti-Maria Pourchet et j'ai adoré Maria Pourchet et j'ai adoré ce livre. C'est une histoire d'adultère, mais contée de manière extrêmement lyrique. C'est un homme et une femme qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui n'auraient jamais dû s'aimer. Il y a un diplomate et une monteuse de films et qui se retrouvent dans le restaurant d'un aéroport, comme ça, dans cette sorte de zone à la lisière du monde. Dans un monde qui est traversé par des orages, des incendies terribles. Et ces deux êtres qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et c'est absolument somptueux. La langue est magnifique, le propos aussi. Et elle arrive en plus, on se demande comment elle va sortir de cette histoire et elle le fait de manière somptueuse. Ça s'appelle « N'avance que désarmée » chez Fayard.
Chez Fayard. Le conseil d'Elisabeth.
Moi, c'est un premier roman qui s'appelle « Sans plus attendre » de Sylvie Durastanti chez Tristram. Et Sylvie Durastanti, elle est traductrice, notamment de Virginia Woolf. Et là, en fait, son livre, c'est tout simplement « L'Odyssée, mais vue par Pénélope ». Donc, on est sur l'île, qui n'est pas nommée, une île méditerranéenne, Ithaque certainement, et on attend avec Pénélope le retour d'Ulysse. Et en fait, ce qui est très très beau, c'est que certes, Ulysse va vivre 1000 épreuves, mais Pénélope, elle aussi, et si Ulysse est l'homme aux 1000 ruses, Pénélope, elle aussi, doit déployer des trésors d'ingéniosité pour échapper aux assauts des intrus et des prétendants qui souhaitent prendre la place d'Ulysse. Et ce qui est magnifique dans ce livre, dans cette épopée intimiste, c'est le côté très sensible, très sensuel. On sent vraiment la myrte, le pain, le miel, les figues. C'est très très beau, c'est un livre tissé de lumière, de soleil, je vous le recommande vivement.
Chez Tristram, mon conseil, les culs reptiles de, je dis bien les culs reptiles de Mohamed Saleh Haroun, que vous connaissez évidemment pour les cinéphiles, c'est le cinéaste franco-tchadien de Un homme qui crie et de Lingui, et ça paraît chez Gallimard dans la collection Continent Noir, et l'histoire romancée à la fois grotesque et cruelle est celle d'un jeune Africain qui relève un pari fou et représentait donc son pays, un pays de sable, en 2000 au JO de Sydney dans la catégorie 100 mètres nage libre, alors qu'il ne sait pas nager. Mohamed Saleh Haroun s'est inspiré de la vraie histoire, que je ne connaissais pas, du nageur équato-guinéen Eric Moussambani, qu'on avait surnommé l'anguille, et qui a battu le record de lenteur au JO, mais a été ovationné parce qu'il incarnait l'esprit olympique. Vous savez, l'essentiel n'est pas de vaincre, mais bien de se battre. Et je trouve que de ça, il a fait non pas un film, pour une fois, mais un roman, Les culs reptiles, chez Gallimard Mohamed Saleh Haroun. Le conseil, enfin, d'Arnaud.
Alors, ne vous précipitez pas, parce qu'il ne sort que dans 15 jours, mais voulais vous en parler tout de suite. C'est le nouveau roman noir, et à la fois de politique fiction, de Jérôme Leroy, un genre qu'il maîtrise parfaitement. Ça s'appelle
«
Les derniers jours des fauves ». Et c'est un grand roman qui n'est pas, d'ailleurs, sans rappeler celui de Houellebecq, puisqu'il se passe lui aussi durant une campagne présidentielle. Mais cette fois, on est en 2022, sauf que... Imagine Jérôme Leroy, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a été élu en 2017, mais une certaine Nathalie Séchard, qui est devenue donc la première présidente de la République, qui a pour particularité d'avoir épousé un homme beaucoup plus jeune qu'elle, qui se veut poète et qui délire sur le film Patterson de Jim Jarmusch. Et donc Nathalie Séchard décide de ne pas se représenter, et à partir de là, dans les membres de son gouvernement, surtout le terrible ministre de l'Intérieur, décide de gagner cette élection présidentielle. Et là, ça va être jonché de cadavres dans une France en pleine épidémie, hein, la France actuelle. Et là, franchement, Jérôme Leroy est le digne héritier. On le savait déjà, mais là, c'est clair, le digne héritier de Jean-Patrick Manchette, sinon le meilleur.
Jérôme Leroy, et c'est aux éditions...
À la Manufacture du Livre.
Manufacture du Livre. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Elisabeth Philippe, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir à la Technique, au Théâtre de l'Alliance Française. Il y avait, et je les remercie, et je leur souhaite bonne année, Marie, le peintre, Kevin Delcourt, Philippe Thibault, et à la régie, Jean-Yves Masson, pour une réalisation d'Orfèvre, signé Xavier Pestugia. Notez bien que les prochains enregistrements du Masque et la Plume auront lieu le jeudi 3 février à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre surtout à la remise du 32e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Dans une semaine, on parlera de films. Je
vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.